RMC entre les poteaux.
Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, entre les poteaux, spécial demi-finale du top 14. Pour tout savoir sur vos rencontres du week-end à Marseille, premier épisode avancé le prévu ce vendredi à 21h05, Stade Toulousain Racing 92. Et demain, rebelote, nouvel épisode, on vous présentera la rencontre Montpellier-Stade Français. Parce que les poteaux ne s'arrêtent jamais, on file à Marseille. RMC est à Marseille avec Pierre Thévenet et Romain Asselin. Bonjour, bonsoir messieurs. Ça dépend salut, à quelle heure ils nous écoutent les gens.
Salut Will, salut tout le monde.
Comment ça va?
Très bien, chaudement.
Première journée chaudement, à Marseille, première impression?
Il fait très beau, il fait très chaud, moins que c'est plus supportable qu'à Lyon l'année dernière où vraiment on cramait sur place. Mais les conditions vont être parfaites, tout le monde a découvert le Vélodrome. Patrice Collazo était ravi de revenir dans ce Vélodrome et les Toulousains étaient très à l'aise comme d'habitude au moment de fouler la pelouse tout à l'heure.
Qu'est-ce qui vous a fait tiquer? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs? Il y a eu des entraînements, c'est court hein, pour la presse. Hein,
oui,
c'est un quart d'heure. Nous, ce qui nous a fait tiquer, alors il y a deux choses. L'entraînement du Racing, c'était insolite. Une bannière Stade Toulousain qualifiée pour la finale qui s'est affichée sur
les écrans
publicitaires du Vélodrome.
Plusieurs fois.
Plusieurs fois, avant que finalement quelqu'un n'intervienne et hop, ils ont fabriqué un bandeau.
On a dit à la com de la LNR, attention quand même, il y a Patrice Collazo qui est en train de voir que vous affichez partout le Stade Toulousain en finale.
Il teste pour la fin du match.
Ouais. Et on nous a assuré qu'il y avait une alternance avec le Racing.
Qui a mis du temps à arriver.
Qui a mis beaucoup de temps à arriver. Et au bout de 10 minutes, on a vu enfin ce panneau, le Racing en finale, apparaître. Donc ça, c'était en effet le premier truc marrant. Et puis le deuxième, c'était l'entraînement du Stade Toulousain où les Toulousains sont entraînés avec des maillots du TFC, le club de football de la ville. Donc les maillots violets et blancs.
Ça, c'est
avec,
les trois quarts.
Les trois quarts, exactement, avec des surnoms sur les flocages. Donc on avait Calvinator pour Calvin Gourgue, Angelinho pour Ange Capozzo. Et puis qui nous a bien fait marrer, E.T., l'extraterrestre Antoine Dupont qui avait un maillot floqué E.T. 99. Donc voilà, ça c'était l'autre truc un peu amusant de ces entraînements qui n'apportent rien du tout, hein, parce qu'ils font des foot et des
oui, étirements. Oui. Après, c'est difficile de sentir quelque chose. C'est vrai que maintenant, ils arrivent tous avec la musique, les sourires.
Oui, c'est ça.
C'est pour tout le monde pareil un petit peu.
Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre en conférence de presse. Hein. On sent que tout est
C'est pas là où on apprend le plus de choses.
C'est peut-être la conférence de presse, les conférences de presse les plus fades, hein, celles des phases finales.
Même si Patrice Collazo a toujours une ou deux bonnes formules,
changer,
et Gomola également. Oui, les deux managers ont toujours des bonnes formules.
C'est plus les joueurs qui...
Oui, les joueurs, ça ne sert pas à grand-chose en effet.
Il s'enfonce des portes ouvertes.
T'as failli l'appeler que Patrice, Pierre. Tu te landrises un peu avec Jo.
Il faut que je fasse attention.
Patrice. Voilà.
Non, c'était une petite. J'ai rajouté quoi.
Allez, on se plonge dans ce premier match, messieurs. À tout seigneur, tout honneur. Le triple champion de France en titre, le Stade Toulousain. On va commencer, bien sûr, pour dire aux gens l'état des troupes. Et parce qu'on les a, la compo, surtout, du Stade Toulousain, Romain, que tu peux nous donner.
Oui, avec un grand absent, on se doutait hein, depuis déjà quelques jours qu'il ne serait pas là, son forfait était confirmé, c'est Thomas Ramos, et on va y revenir évidemment parce que c'est un forfait de taille pour le Stade Toulousain, c'est Blair Kinghorn qui le suppléera en tant que titulaire. Alors, je te donne le 15 de départ, on y va, et puis après on disserte sur les forces en présence. Rodrigue Néti, Peato Movaca et Joël Merkler pour former la première ligne. Joshua Brennan associé à Emmanuel Meafou en seconde ligne, la troisième ligne c'est XXL, Jack Willis, à capitaine demain, entouré de François Cross et Alexandre Roumat. La charnière, le retour d'Antoine Dupont, parce que c'est l'autre grosse nouvelle de la journée côté Stade Toulousain. Il y en a d'autres des bonnes nouvelles, on vous les dira. Romain Tamac sera avec lui évidemment à la charnière. Mathis Lebel et Teddy Thomas sur les ailes avec Kinghorn donc pour former le triangle arrière. Et puis au centre, Choco Barès, Barassi, un coup d'œil sur le banc. Toulousain, on va retrouver des garçons comme Julien Marchand, tiens, qui fait une énorme saison, qui commencera sur le banc. Aïnou et Aldeguerri du côté des piliers qui entreront en cours de match. Clément Verger et Thibaut Flamand pour la deuxième ou troisième ligne. Paul Graou qui fait son retour lui également et qui suppléera Antoine Dupont en cours de match. Calvin Gourgue est là mais sur le banc avec Ange Capozzo. Ça fait donc un banc en 5-3 côté Toulousain.
On va parler de cette compo, mais c'est vrai que l'info principale, évidemment, c'est le forfait de Thomas Ramos. Et évidemment, vous avez posé la question, on a lancé Hugo Mola, le manager du Stade Toulousain, sur cette absence. On l'écoute.
En fait, il a l'honnêteté, et c'est peut-être assez rare d'ailleurs à ce niveau-là, de ne pas se sentir à 100%. Et donc, sur les tests qui ont été réalisés, il estimait prendre un peu l'équipe en otage. Et donc, plutôt que de se mettre en situation de sortir au bout de 20 ou 30 minutes, il préférait passer son tour. Et honnêtement, quand vous voyez ce que ce garçon nous a apporté, le comportement qu'il a eu sur les phases finales depuis quelques années maintenant, depuis 18-19, où il a été déterminant dans chacune des rencontres qui ont compté, ben on perd évidemment un garçon qui compte fort pour nous.
Est-ce que, Romain, ce forfait de Ramos, c'est pas le pire des forfaits dans l'équipe du Stade Toulousain? Et pourquoi?
Clairement, tu as sorti notamment, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais une stat tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, vendredi, sur rmcsport.fr, quand on regarde son influence sur les finales. Alors évidemment, là, on n'est pas encore au stade de la finale, mais tu as bien fait de le préciser quand même. 54% des points inscrits par son équipe en finale depuis 2019. C'est colossal. Thomas Ramos, qui n'est pas seulement un buteur, c'est un énorme leader, un meneur d'hommes qui a une influence aussi considérable sur ses coéquipiers, mais aussi sur le corps arbitral. Enfin, je veux dire, on connaît tous vraiment le rôle qu'il a, aussi bien à Toulouse qu'avec le 15 de France.
Il n'avait jamais manqué un match de phase finale avec le Stade Toulousain.
En top 14, effectivement. On se souvient juste en Coupe d'Europe qu'il avait manqué la demi-finale l'an dernier, perdu à Toulouse face à Bordeaux. Mais effectivement, en top 14, c'est un peu la nouveauté. Et forcément, ça soulève des interrogations, messieurs.
Et c'est toi, Wilfried, qui le sait mieux que nous. Quelle importance il a, Thomas Ramos, dans un match qui va être aussi important que celui de vendredi soir?
On l'a dit, leader, aboyeur, meneur par l'exemple, meneur dans les points au pied aussi, puisqu'on peut estimer que c'est Romain Tama qui va prendre le but. Mais c'est ce qu'on disait, 54% des points. et en plus, c'est sur ces finales, imaginez que c'est le seul à avoir joué les 5 finales titulaire avec François Cross depuis 2019 et qu'il a fait en nombre de points 14 points, 15, 19, 20 et 24 l'année dernière. En plus, voilà, vous imaginez le ratio que ça fait sur une finale et ce que ça représente sur un score. Bon, ça veut pas dire que Toulouse perdre, mais on peut estimer que c'est quand même un énorme coup dur pour le Stade Toulousain. Et vous l'avez dit, il n'était pas là l'année dernière en demi-finale de Champions Cup à Bordeaux et Toulouse l'avait ressenti. Bon, heureusement, il est bon de nouvelles, messieurs.
Juste, est-ce qu'il sera là pour la finale? Si Philalibia,
il espère.
Voilà, lui espère.
Il espère.
Hugo Mola s'est montré assez secret sur la nature de sa blessure. Alors, on parlait d'une blessure au niveau des ischio-jambiers. Lui n'a rien confirmé. Il n'a pas, en tout cas dans ses propos, laissé penser que Thomas Ramos, sa saison était terminée. Mais bon, la question se pose encore.
On n'est pas encore, mais s'il y a potentiel final, il tentera le coup.
Après, est-ce qu'en une semaine, tu peux te rétablir comme ça? Là, on a entendu ce qu'il disait sur les tests physiques. Et en gros, il pouvait tenir 20-30 minutes. En l'espace d'une semaine, quand même. Je pense que la question se pose quand même.
Ouais. C'est peut-être Romain. Alors, qu'il y avait des doutes. Graou est revenu, mais a été blessé au mollet. Dupont, c'est l'adducteur, mais il est là. Flamand a un souci à la voûte plantaire d'un pied, mais il est donc sur le banc parce qu'il a été ménagé aussi. Romain, c'est que le Stade Toulousain a beaucoup bossé ces derniers temps, comme dit Patrice Collazo, on verra, il a fermé les écoutilles et voilà. Mais Toulouse a fait une grosse prépa physique.
Oui, j'ai envie de dire, et tu vas le confirmer, Will, mais comme d'habitude, je pense qu'ils connaissent leur plan à la perfection et ils n'ont pas forcément l'habitude de changer d'habitude pour le coup. Et donc, à force d'être à chaque fois en demi-finale, ils connaissent la recette. C'est trois grosses semaines avec beaucoup de physique, presque, on pourrait presque dire une prépa physique. Une mini prépa physique avant phase finale, on va l'appeler comme ça, Ils ont encore été en stage la semaine dernière en Espagne. Voilà, le stage avant la demi-finale, c'est l'habitude aussi de la maison.
Mais Patrice Collazo le disait quand même en conférence de presse. Il dit ils ont l'habitude de cette semaine, de ces 2 semaines de pause. Et puis il a dit après dans un deuxième temps. Là, quand même, ils ont eu une grande pause. Aussi pour rappeler que les dernières journées, ce n'était pas forcément l'équipe type qui jouait. Qu'Antoine Dupont, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le terrain. Et que c'est vrai qu'on ne sait pas quel Stade Toulousain on va avoir demain. Donc, si c'est comme tous les ans et que ce stage est un stage miracle qui fait que tout le monde retrouve son meilleur niveau pour les phases finales, ce sera bravo le Stade Toulousain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos sur dans quel état de forme sont les joueurs. Est-ce que tout ça a été remis d'aplomb sur ce
ça fait
stage-là?
Très longtemps qu'on n'avait pas eu aussi peu de certitudes, en tout cas de l'extérieur, hein,
ouais.
Nous,
pourquoi c'est
par
ça?
Rapport
pourquoi
à
on a
l'état de
osé
forme du
mettre des
Stade
doutes
Toulousain.
En fait, pourquoi on a osé mettre des doutes? C'est les résultats étaient quand même un peu en dents de
Bien
scie.
sûr.
Mais est-ce que vous pensez qu'il faut tout effacer de ce qu'on a eu ces dernières semaines et que, quoi qu'il arrive, il y aura un Stade Toulousain ce vendredi soir bien différent?
Ah oui, moi j'en suis persuadé. Et je pense que
Moi pas, mais
alors si tu regardes, tiens, regarde la saison dernière. Je suis allé jeter un œil à la saison dernière. Si tu regardes la dynamique de fin de saison, donc au mois de mai, début mai, ils perdent en demi-finale de Champions Cup face à Bordeaux. Et ensuite un dernier bloc de top 14 qui dure à peu près un mois. Il y a 4 matchs, il y a 2 victoires, 2 défaites. Et ils n'ont jamais réussi à enchaîner 2 succès
Ouais,
consécutifs.
mais ce mauvais bloc cette année, il démarre en quart de finale de Champions Cup, donc
Oui,
le 12 avril.
c'est
Non,
vrai,
mais
il est
c'est
un
un
peu
mois
plus
plus
long.
tôt par rapport,
Ouais.
quasiment un mois plus tôt par rapport à l'année dernière. Parce qu'après ce match-là, il y a une victoire à Castres qui était bonne, mais
Oui.
tu perds à la maison contre Clermont ensuite. Tu vas gagner chez un Toulon qui ne ressemblait plus à grand-chose en fin de
Ouais,
saison.
mais attends, ils
T'en
ont fait un gros
prends,
match ce
attends,
jour-là.
oui, non, mais t'en prends 40 à La
Ils
Rochelle.
en passent
T'es pas
50,
du
ouais.
tout convaincant contre Lyon et tu perds au Racing la dernière journée. Je veux dire, cette période de flou, elle me paraît beaucoup plus grande que l'an
Ah
dernier,
oui, je suis d'accord avec
avec
toi.
en plus sur cette période-là Antoine Dupont qui n'est pas là. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu plus de doute. Maintenant, évidemment que très certainement on aura un Toulouse tout à fait compétitif de vendredi soir. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu plus de doute que d'habitude. Et ce doute, il est lié à factuellement les résultats et les
Et puis,
performances du stade.
quelque part, comment ne pas l'avoir avec une telle surdomination de Toulouse ces dernières années, forcément, tu as envie de t'engouffrer dans la brèche et tout le monde le fait, les médias. Il n'y a pas que les médias parce qu'ils sont bien gentils, hein, encore cet après-midi en conférence de presse, c'est les médias, c'est vous qui dites ça. Non,
Les
je
deux
pense que tout
côtés,
le
ils ont
monde dit
dit ça.
ça.
Ouais.
Les observateurs, les supporters, tout le
Vilain
monde s'en rend compte,
journaliste.
évidemment. On se rend compte et on le dit, hein, Pierrot, depuis quelques semaines maintenant, entre les poteaux, avant chaque week-end, avec les résultats qu'il y a eu, les surprises qu'il y a eu ces dernières semaines, il y a une espèce d'homogénéité qui s'est installée là sur cette fin de saison qui fait dire que peut-être ce ne sera pas le Stade Toulousain qui soulèvera le Brennus à la fin de la saison. Donc je pense que tout le monde s'engouffre dans la brèche et on va pas bouder notre plaisir. Effectivement, ce Stade Toulousain a moins de certitude, ben, on a plus de suspense. Voilà. Et je pense que tout le monde est content avec ça. Enfin, peut-être moins les supporters toulousains, mais en tout cas, tous les amoureux du top 14 du rugby en général, je pense qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de voir ces deux matchs. Parce que.
Vous voulez dire que tout le monde
Alors
attend le
peut-être,
microcosme
tu
du
vois.
rugby hors toulousain, attend que ça tourne un peu après 3 titres
Je sais
consécutifs?
pas, mais en
Oui,
tout
ou
cas, il y a une
en tout cas,
ouverture.
qu'il y ait des concurrents. On en avait avec Bordeaux l'année dernière, ça va quand même en prolongation. La finale, on le rappelle, mais évidemment qu'on aime la nouveauté, qu'on aimerait bien voir un nouveau champion peut-être. Maintenant, si Toulouse est à nouveau le plus fort cette année,
Ah bah il y aura
bah
rien à dire,
on dira bravo, il n'y aura rien à dire. Mais c'est vrai que je pense que tout le monde se dit, et surtout le Racing et le Stade Français et Montpellier, elles se disent, s'il y a une année où on a l'impression qu'on peut les prendre,
Voilà,
c'est
c'est
peut-être
ça.
celle-ci.
Ouais,
Je
ça
pense
peut
qu'on peut
compter
dire
dans les
qu'on
têtes,
a récompensé, pardon, la régularité, hein, dans la compo toulousaine. Hein, il y a pas
Ouais.
trop de surprises. Hein, Nethi, Mercler, c'est ceux qui ont été les meilleurs qui ont le plus joué. C'est vrai que le choix Movaca
Tu l'expliques
titulaire,
comment ce
voilà.
choix-là? Marchant sur le
Il faut regarder le banc parisien aussi, hein,
banc.
avec Tchoupo qui va rentrer, que ça va être très très solide.
Attention,
Donc
Wilfried, le banc francilien.
francilien,
Ah, tu
s'il
vas
te plaît.
énerver tous les
Francilien, pardon.
supporters français.
Francilien, excusez-moi, mille excuses. Donc voilà. Après, le Thibaut Flament, je vous l'ai dit, a été ménagé. Donc au Stade Toulousain, s'il y a des joueurs qui, ben, voilà, qui loupent des entraînements, ils vont sur le banc. Tout Thibaut Flament qu'il est. Et Brennan est récompensé aussi de ses efforts des derniers temps. Il n'y a pas en troisième ligne, il n'y a pas tant de choix que ça, hein, parce que ils le disent pas, mais je pense
Gelon
que Ntamack,
est.
Théo Ntamack qui est forfait, Jelonche est
Oui,
forfait, Castro Ferrat est
exactement.
forfait, Banos est forfait, donc il y a de la casse quand même, hein,
Il n'y a pas de
côté
vraie
Toulouse.
troisième ligne sur le banc au final.
Oui.
Oui,
Parce que
bah,
Verger et
Flamand peut y
Flamand,
jouer,
c'est
hein,
plutôt
vous
des
savez,
deuxièmes
avant de
lignes.
s'installer en deuxième ligne, en arrivant à Toulouse, il jouait plus troisième ligne.
Oui.
Mais voilà.
Et
Et
Brennan peut y jouer
puis
aussi.
derrière, Et Brennan peut jouer aussi, effectivement. Et derrière, je vous disais la régularité, Lebel et Thomas ont été ceux qui ont le plus joué et le plus marqué. Et c'est pareil, je pense que l'expérience du duo Chocobares-Barassi fait que Gourgue est sur le banc, il pourra électriser un peu la deuxième mi-temps s'il rentre.
Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté aussi de densifier un peu ce centre du terrain en mettant Barassi et Chocobares et pas un Calvin Gourgue face à la puissance, on va en parler des franciliens.
Effectivement, avec Tuisova, Ficou, je ne sais pas si Gaël Ficou viendra défier comme le fera Tuisova ou comme a pu le faire Abossi. Mais il prime à l'expérience aussi des phases finales. Et bon, c'est bien pour le Stade Toulousain de récupérer Graou hein, et même Capozzo, ça fait du monde sur le banc hein, à Toulousain. Hein, Guéry, Capozzo, Flamand, Marchand, est incroyable côté toulousain. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas remarquer le retour, tu l'as dit, de Iti, du Martien. Antoine Dupont, juste avant d'en parler, écoutez Hugo Mola, qui a aussi été interrogé, évidemment. Les journalistes n'ont pas pu s'empêcher de parler d'Antoine Dupont.
Malheureusement, on aurait aimé le récupérer un peu plus tôt. Je ne vous cache pas que si on avait eu un match de barrage, il aurait pu jouer. Donc, une semaine de plus était garantir, en tout cas, qu'il puisse commencer avec nous. Sa performance, ça reste toujours une inconnue, mais c'est l'inconnu du Stade Toulousain, c'est l'inconnu d'un peu de tous les joueurs qui vont rentrer sur la pelouse demain soir. Mais j'ai croisé pas mal de bons joueurs, particulièrement au Stade Toulousain ces dernières saisons. Ce qui est sûr, c'est qu'il est déterminé. Maintenant, est-ce que ça suffira pour en faire le grand Antoine Dupont que vous attendez tous? Moi, je sais qu'à un certain niveau, il suffira à ce que l'équipe joue bien.
C'est un management, j'essaie de disséquer hein, ce qu'il dit. Quoi. Hein, sa performance, ça reste une inconnue, mais il est déterminé. Est-ce que ça suffira pour voir le grand Antoine? Il lui envoie il lui envoie aussi des signaux hein, à Dupont en disant ça. Hein,
non, mais il finit quand même en disant, en gros, même un Dupont à 80%, ça devrait aller pour qu'on joue correctement. La dernière phrase, c'est ça. Un certain niveau, il suffira à ce que l'équipe joue bien. C'est presque... peut-être qu'on n'aura pas le Antoine Dupont qui traversera le terrain, mais normalement, il est assez prêt pour mener notre jeu. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas.
Mais est-ce que on sait tout ce qu'il a fait avant dans sa carrière, Antoine Dupont? Malgré tout, est-ce que vous pensez qu'il a un peu rendez-vous avec sa saison ce week-end? Avec toutes les interrogations qu'il y a, tout ce qu'on a dit autour de lui, quoi.
Pour moi, c'est son 9e match de top 14 cette saison. Donc en fait, elle n'a jamais vraiment commencé, la saison d'Antoine Dupont à Toulouse. Il avait été très bon en bleu au début du tournoi, puis ça a été un petit peu plus compliqué. Il a joué la campagne de Champions Cup, mais il était des défaites à Glasgow et au Saracens notamment, et de la défaite à Bordeaux. C'est quand même 3 défaites en Champions Cup sur 6 matchs. Ouais. Ça n'a pas dû lui arriver souvent quand il est titulaire, Antoine Dupont. Et puis en top 14, encore une fois, il n'a que 8 matchs pour l'instant, dont 3 titularisations. Ça va être sa 4e titularisation. Donc est-ce que sa saison a vraiment commencé? Quand tu dis il a rendez-vous, pour moi, oui. Après, est-ce que s'il est moins bon là, ça remettra en question tout ce qu'il a fait avant? Pas du tout. Est-ce que ça remettra en question ce qu'il peut faire après? Pas du tout. Mais sur cette saison 2025-2026, on va attendre Antoine Dupont quand même vendredi soir.
Il avait été excellent à La Rochelle juste avant le changement d'année, enfin contre La Rochelle à la maison.
Oui, au stadium.
Au stadium, vraiment.
Oui, il m'a un doublé.
Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre, du coup, pour surfer sur son maillot IT là. Après, il ne faut pas oublier, on le sait hein, dans le monde du rugby, ce genre de blessure là, généralement, les coachs te disent, il faut le double de temps pour revenir au meilleur niveau. Et il a été absent combien de temps? 9 mois, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Un peu moins, 8 mois.
Bon, on est dans les temps quelque part.
Ah non, mais il n'y a rien de dramatique.
Il est surhumain dans ses performances, mais il y a un moment, il est aussi rattrapé par la réalité de la réalité physique quelque part. Et puis bon, il commence à avoir, mine de rien, un paquet de matchs derrière lui. Il prend de l'âge aussi. Bon, voilà, je pense qu'il faut tout bien mettre en perspective. On ne peut pas attendre de lui des folies, même si on pensait que après ce match de La Rochelle, que ça y est, c'est revenu comme avant. Non, voilà. Il n'est pas surhumain non plus. Bien aussi, quelque part. Quoi.
Non, puis la question est quand même de savoir si, même si ce n'est plus le rugby d'il y a 20 ans, est-ce qu'en 6 semaines sans match, que de la prépa physique et en ayant été blessé, est-ce qu'on a le rythme? Bon, il y a Graou sur le banc, donc il n'est pas obligé de jouer même 70 minutes. Hein, il peut jouer moins. Mais voilà, est-ce qu'on peut se reconnecter comme ça sur une demi-finale avec le rythme et les repères?
Et tu dis 6 semaines sans match, 9 semaines depuis sa dernière titularisation. C'était en Champions Cup contre Bordeaux, la dernière fois qu'il a eu le numéro 9 dans le dos, parce que sinon, contre Castres, il joue 25 minutes et contre Clermont, il rentre à la mi-temps. Quel rythme il va avoir, ça ? On ne sait pas combien de minutes il va pouvoir jouer, on ne sait pas non plus.
Est-ce que Hugo Mola le sait ? Après, il n'aurait pas pris le risque de faire n'importe quoi.
Non, mais puis comme Hugo Mola dit, il le dit entre lignes, il y a eu un Dupont à 80%, ça suffit pour faire jouer ton équipe. Peut-être qu'il ne va pas traverser le terrain, certainement même. Mais évidemment que c'est peut-être une menace un petit peu moins grande à surveiller pour le Racing 92 en termes de ce qu'il peut faire individuellement tout seul sur le terrain.
Après, il y a quelque chose d'important à souligner aussi de la conférence de presse d'Hugo Mola. Il en a parlé quand même deux fois sur le fait que ces joueurs-là, les Dupont, les Ramos et compagnie, c'est 28-29 matchs par saison depuis des années et des années, et qu'au bout d'un moment, forcément, tu ne peux pas faire de miracle. Et quelque part, il avait l'impression de dire...
De leur chair, il dit de leur corps.
Ça. Ça devait arriver à un moment. Bon, ça tombe là. En tout cas, pour Ramos. Ça devait arriver. Enfin, je veux dire, ils ont
tellement... il y aurait des circonstances atténuantes pour le Stade Toulousain si jamais ça ne se passe pas bien. Ouais. Mais j'entends notamment dans le Moscato Show dire c'est du 50-50. Pour moi, c'est pas du 50-50 ce match-là.
Attention, il se dit que les Toulousains sont en mission quand même. Quoi. Sont en, non, mais c'est ça. En mode phase finale.
C'est pour ça que je dis ça. Le Stade Toulousain en mode phase finale avec bien leur expérience, avec leur composition, on peut pas dire que c'est un 50-50 face au Racing qui a terminé 6e de top 14. Et Patrice Collazo dit lui que c'est pas un 50-50. Évidemment, il est dans son rôle. Mais de dire que pour moi, Toulouse reste largement favori, même avec tous les petits bémols qu'on a mis avant.
Ce sera seulement la quatrième association au début d'un match entre Dupont et Ntamack cette saison. Ça fait très peu pour la charnière de l'équipe quand même, la charnière titulaire. On passe au Racing. Ouais, et de l'équipe de France. On passe au Racing, donc déjà Pierre avec les forces en présence, comme pour Toulouse, la compo concoctée par Patrice Collazo.
Et là aussi, il y a un grand absent, c'est Vinaya Abossi. Il avait été énorme contre la section paloise et sur toute la fin de saison globalement. Il s'était fait mal dans ce barrage-là. Il était là, lui, pour le coup, contrairement à Tom Ramos. Il a fait le petit échauffement, la petite mise en place. On nous avait dit dans la semaine qu'il serait présent et qu'il serait dans le groupe et qu'il serait pas loin. Là aussi, ça bluffe. Et je pense qu'il a été un tout petit peu juste. Et puis, il y a des solutions aussi côté Racing pour le remplacer. Donc, sans doute qu'on ne prend pas trop de risques. Pour la première ligne, ça ne bouge pas par rapport à la semaine dernière. Gouram Gogichashvili à gauche, Demba Bamba à droite et Yannick Tarit, le talonneur en numéro 2. Jonathan Hill remonte en numéro 4 à la place de Thomas Leno, alors qui jouait en troisième ligne, et il va être associé au capitaine Romain Taofifenois pour laisser de la place à une troisième ligne très épaisse. Maxime Bodon n'est pas très épais, mais il est avec lui. Maniarara qui décale de numéro 8 à numéro 7 par rapport à la semaine dernière. Et Nathan Hughes qui est de retour en titulaire. Il avait plus de mal sur la deuxième partie de saison, mais il va apporter bien sûr toute sa puissance. La charnière Carbono-Gibert ne bouge pas, donc Gibert est bien remis et apte. Max Spring titulaire sur l'aile gauche. Et la paire de centres change complètement puisque c'est Tuisova associé à Gaël Ficou et c'est Joseph Manu qui est décalé sur l'aile droite. C'est un poste qu'il a déjà occupé notamment au Japon quand il y jouait et également avec le Racing. Et Sam James enchaîne lui à l'arrière. Sur le banc, on est sur un 6-2 côté Racing avec Escobar, Djabea et Taniela Tupou pour la première ligne. Tagita Givalou, Thomas Leno, Jordan Joseph, là aussi il y a du tonnage. Et puis Hugo Sun avec Celestino, Ravuta Omada qui lui fait son retour sur le banc. Un autre Fidjien, pas du tout le même profil que Vini Abossi, mais on est également sur un joueur capable de faire des différences un petit peu à lui tout seul.
Pierre, juste ces changements derrière, comment tu... Tuisova est d'entrée au centre, Gaël Ficou était à l'aile,
rentré à l'aile,
Manu était centre, passe à l'aile, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Il l'a toujours fait ça toute l'année, Patrice Collazo, il a laissé ses joueurs un petit peu dans cet inconfort permanent de montrer que tout le monde pouvait jouer à la place de tout le monde. Sa base, c'est d'avoir un de ses Fidjiens perforateurs au centre, que ce soit Tuisova ou Abossi, mais il a très peu fait jouer les deux ensemble. C'était souvent l'un remplacé par l'autre en cours de match. Et ensuite, le choix de Gaël Ficou ou de Joe Manu, je pense qu'il s'explique par le fait que Gaël Ficou, titulaire, reste capitaine de cette défense du Racing 92 et que c'est plus simple de l'avoir en numéro 13. Il se méfiait beaucoup des ballons aériens des Palois. Donc il avait aussi Miguel Ficou sur cette aile-là pour venir bloquer. Là, il retrouve sa place de numéro 13 titulaire. Et encore une fois, Joey Manu est plus un ailier, a plus joué à ce poste d'ailier que Gaël Ficou. Et Max Spring, lui, reste de son côté. Mais il nous a prévenu en conférence de presse. Il a dit que ce ne sera pas la même équipe que contre Pau, qui n'était pas la même équipe contre Toulouse, qui n'était pas la même équipe contre Clermont.
Vrai.
Ça a vraiment été son mantra cette année de changer constamment.
Ouais.
Et c'est aussi l'entraîneur qui fait le plus de coaching en cours de match. Il aime beaucoup et il ne pourra plus le faire l'année prochaine.
Oui.
Mais faire sortir ses joueurs à la 45e, les faire revenir à la 70e, décaler des mecs de poste, il a vraiment un groupe qui est très hybride et il aime s'en servir.
Oui, parce qu'on avait 12 changements depuis des années, on va revenir à 8, comme au niveau international.
Il est beaucoup plus porté que d'autres techniciens, que d'autres staffs sur l'étude de l'adversaire.
Oui.
Et le
il adapte beaucoup son équipe à l'adversaire.
Alors que tu as beaucoup d'équipes qui mettent leur équipe type, peu importe l'adversaire, c'est la même équipe. Je pense notamment pour les suivre à l'année, La Rochelle, qui à chaque fois balance son équipe type. Mais lui, c'est vraiment sa particularité et je trouve ça super intéressant.
Thomas Leno jouait très peu. Il a été balancé titulaire contre Pau parce que Patrice Collazo estimait que pour ce match-là, c'était le joueur qui était le plus apte.
Et je pense qu'il résonne aussi plusieurs semaines en amont et qu'il prévient les mecs aussi plusieurs semaines en amont. Et c'est comme ça que la recette a fonctionné d'ailleurs. Parce
qu'il implique le groupe
très vite engendrer la frustration à changer toutes les semaines comme ça. Mais je pense qu'en fait, les mecs, ils ont un planning, ils ont un programme et ils savent plusieurs semaines à l'avance quel match ils vont jouer.
Et surtout, ils savent que même s'ils sont 19 ou 20 sur le banc, en fait, à la 45e, ils peuvent potentiellement rentrer, ressortir ensuite. Enfin, il y a une vraie idée de management global, comme Fabien Galthié le fait souvent aussi, en appelant ses remplaçants les finisseurs, en laissant les investir au maximum. Mais je trouve que c'est encore plus prononcé avec Patrice Collazo et le Racing.
Alors, il y a une question, on va l'écouter parce qu'il y a une question, c'est que comme chaque année, il y a une équipe qui jouait le week-end dernier et une autre qui était au repos. Écoutez déjà Patrice Collazo sur la question, une question fondamentale de ces matchs-là, sur la fraîcheur physique.
Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'usure. Il y a rien. Si on est fatigué pour une demi, fallait pas monter dans l'avion. Donc moi, je ne suis pas inquiet sur la fraîcheur et sur l'enchaînement des matchs qu'on a eu. C'est un groupe qu'on n'a pas besoin de... Comment dire, de m'attraquer psychologiquement, de leur rappeler les choses. Je suis convaincu qu'ils seront prêts demain.
Il m'a fait peur. On l'avait dans l'oreille. Il n'y a pas de fatigue.
Pas de fatigue.
Ouais.
Ah,
c'est Patrice.
C'est quand tu veux faire passer ses messages, il se met en mode ours et il chuchote.
Ah ouais. T'es d'accord avec lui, Pierre? Parce que ça a toujours eu son importance. Sur les... Depuis 2018, et Castres, il n'y a pas un barragiste qui a été...
Ah, mais on lui a rappelé, il a dit je suis pas là pour défier les statistiques, je suis là pour gagner demain. Voilà en gros son message. Je pense évidemment que ça va avoir un impact. Ils ont laissé des plumes, la preuve, Inaya Bossi n'est pas là, donc c'est bien que les corps ont été marqués. Antoine Gibert s'est fait un peu mal à l'épaule, Wilfried Hulleux est forfait aussi. Évidemment que ces matchs-là, ils vont compter. Maintenant, la question c'est est-ce que la forme physique est plus importante que la dynamique. Et les deux vont être en balance. Et le Racing n'a jamais aussi bien joué cette saison que depuis 3 semaines. Le match à Clermont et le match à Pau sont les 2 meilleurs matchs du Racing cette saison. Donc est-ce qu'ils sont encore portés là-dessus?
Plus ça va, meilleurs ils sont.
Non mais c'est ça, cette saison c'est ça. Et là où Patrice Collazo a raison dans ce qu'il dit, c'est qu'il a tellement fait tourner cette année que peut-être que ces hommes ne sont pas aussi fatigués que d'autres équipes en fin de saison. À part Maxime Bodon qui est ultra utilisé mais qui a l'air d'être encore assez frais sur cette fin de saison, il y a eu tellement de rotations et il n'a jamais envoyé d'équipe B pour opposer ses cadres. Comme Romain disait, c'est toujours des équipes très hybrides. Donc... après, oui,
il n'a pas fait d'opération GIF.
Non, il n'a pas fait d'opération GIF.
Mais, j'ai pas giffé.
Mais... Non, mais on l'a croisé jeudi au centre d'entraînement du Plessis. Il nous a dit, vous allez voir, opération GIF samedi. Première chose qu'il nous a dit quand on l'a croisé. Ouais, il est encore bloqué là-dessus. c'est pas ceux pour lesquels je suis plus inquiet. Contrairement à La Rochelle, où on le voyait un peu venir la semaine dernière, par exemple, ou la section paloise, où on les sentait aussi que la saison avait été longue. Là, c'est une équipe où... C'est un peu des mercenaires slash cyborgs, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment d'émotion et que ça va rouler quoi qu'il arrive. Maintenant, évidemment que les matchs comptent et vont peser.
Est-ce que le Racing aura toujours le même style ou est-ce que le Racing s'adapte Alors, est-ce qu'on va à première vue comme ça, on se dit on va pas être surpris par le Racing, par le style et ce que va faire le Racing.
Je pense que défensivement, il s'adapte
très fort.
Contre Pau, par exemple, sur les duels aériens, c'est Max Spring qui le disait dans le, dans le podcast que fait Gaël Ficou, Rugby Confidentiel, en disant qu'ils ont fait toute une stratégie pour venir couper les espaces de saut des Palois, pour sauter presque sur eux et claquer le ballon. L'idée, si on ne touche pas le ballon, on est pénalisé, mais si on arrive à prendre le ballon, on est là-dessus. Je pense qu'il y a des petits ajustements comme ça, tactiques, que met en place Patrice Colazo, mais aussi tout le staff, hein, Michalak, Rocco Soko et Azam notamment. En défense, peut-être sur les montées, sur comment Gaël Ficou va venir couper les extérieurs. Maintenant, le style de jeu global, il va pas bouger. Il va pas bouger parce que c'est ce que Patrice Colazo a rappelé tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé, je voulais une bonne âme dans cette équipe. C'était le truc principal. Il a dit, je veux que cette équipe ait une âme et ensuite le jeu viendra. Et c'est ce qu'on a vu, c'est que le début de l'année, on disait, c'est mieux, ils sont combatifs, ils sont courageux. Et puis on a commencé à dire, et quand même, ils ont des facteurs X, et quand même, ils sont capables de faire des gros coups. Et c'est venu petit à petit. Donc je pense qu'on va avoir le même Racing que la semaine dernière ou qu'à Clermont. Maintenant, c'est est-ce que sur le niveau d'énergie, ils vont réussir à faire encore mieux? Parce que ça aussi, le manager l'avait dit, après la défaite contre La Rochelle à l'Arena, on n'a pas été présent sur l'énergie. Et si cette équipe-là ne met pas les ingrédients dans le combat, dans l'attitude, dans la solidarité, elle ne peut rien faire. Parce que je trouve que son style offensif, il n'y a pas assez d'idées offensivement pour arriver à contourner des défenses. Et que tout est tellement basé sur la force physique, non pas que le défi de la première ligne ou que la mêlée, mais tout le monde doit mettre une énergie dingue pour arriver à faire quelque chose. S'ils mettent cette énergie-là encore plus fort que la semaine dernière, alors ils peuvent embêter Toulouse. Si l'énergie n'y est pas, ça va être très compliqué.
Tu prends l'exemple du match de La Rochelle. Je pense que demain, on peut avoir la même équipe, à peu près, hein, du Stade Toulousain. Enfin, en tout cas, le même contenu après que ce qu'avait proposé La Rochelle.
Ouais. Tenir le ballon, les déplacer un maximum.
Alors, il le sait, Patrice Colazo, d'ailleurs. Ouais.
Mais je pense qu'il y a une chose, et moi je les ai vus à l'aller, à Toulouse. Je pense que le Racing devra élever son QI rugby face à Toulouse.
C'est possible.
Pas que. Je dis, ils ont un style. Hein, je leur demande pas d'envoyer les ballons double sauter à l'aile. C'est pas ça. C'est d'être intelligent à certains moments du match. Parce qu'au match aller, je te reparlerai juste dans quelques instants avec ce qui s'était passé avec Yannick Tarit, sur des choses très bêtes. Ouais. Très très simple, ils avaient fait des choses très bêtes en fait. Ils étaient capables de monter leur puissance comme ça et tout d'un coup de faire des fautes de cadets qui leur coûtent le match en fait. Est-ce qu'ils ont mûri depuis des mois?
Bah ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est une équipe qui a progressé là-dedans. Ils ont pris beaucoup de portes dans la gueule cette saison. C'est eux qui le disent comme ça. À Castres, ils doivent gagner le match. Renvoi d'embut d'Eléo Carbono, contré, et c'est de Castres, ils le perdent. Il y a eu au Stade Français. Ils sont devant et c'est à la 88e du Stade Français qui égalise.
À Pau,
ils tiennent le match en main, et ils mènent largement et ils finissent par le perdre sur un renvoi tapé trop court, récupération des Palois qui vont marquer, ils ne prennent même pas de bonus défensif.
Bah, même la semaine dernière à Pau, hein, le coup d'envoi, l'erreur de Sun.
Ils font très peur.
La Rochelle, où sur la dernière relance, tu te dis ils peuvent prendre le match.
Ils tentent un drop à 45 mètres qui n'a pas lieu d'être. À Bordeaux, rappelez-vous, à Bordeaux, ils sont devant et ils prennent un jaune, ils en prennent 60, ils explosent complètement. Je pense que...
C'est ça que j'appelle le QI rugby pour eux.
Je suis d'accord, totalement d'accord avec toi. Ça... Et c'est lié aussi à une équipe qui est inexpérimentée, qui a une charnière qui est très jeune. Léo Carbono qui monte de Pro D2, et là c'est Antoine Gibert qui joue, qui n'a pas de référence à ce très haut niveau-là, et Hugo Sun en a encore moins. Je pense que c'est une équipe qui a progressé. Maintenant, je suis d'accord avec toi que ça va être la clé, parce que même contre Pau la semaine dernière, où ils font un très bon match, on voit qu'à la fin, ça ne tient plus à grand-chose, et que ça fissure un petit peu, et que Pau a la balle pour revenir. Donc le Racing va devoir démarrer très fort comme ils l'ont fait contre Pau, peut-être essayer de marquer très vite, essayer de mettre la main sur le match. Maintenant je trouve qu'ils ont progressé en effet sur cette gestion de temps fort, temps faible, et de ne plus s'affoler mais de rester dans la stratégie. Romain en parlait de à quel point la tactique semble importante pour le staff du Racing, de mettre en place des choses très claires et de respecter ça. S'ils arrivent à rester dans leur cadre et à ne pas s'affoler, à commencer à faire n'importe quoi, ils pourront peut-être rivaliser. Maintenant, si tu l'as dit, s'il y a un ou deux joueurs qui sortent de ce cadre, que ce soit pour un truc grave comme le coup de tête de Yannick Tarit ou même pour des fautes dans des rucks qui récupèrent des petits jaunes qui permettent à Toulouse de s'installer, là pour moi ça sera trop compliqué.
Quand tu as la tête dans le bidon comme ça, est-ce que tu...
Et puis surtout sur des matchs à pression comme ça. Hein.
Bien sûr.
Ouais. Est-ce que t'es capable...
Et t'es tellement dans l'intensité tout le temps en fait, c'est ça le problème.
Est-ce que t'es capable de corriger toutes les erreurs que tu as énumérées? Est-ce que t'es capable, quand t'as la tête dans le guidon, de corriger ça là à l'instant T? J'en suis pas persuadé. Maintenant, c'est vachement intéressant qu'ils se retrouvent malgré tout à ce niveau-là de la compétition, après tant d'erreurs et un QI rugby qui ne demandait qu'à se développer. ça peut être super intéressant pour la saison prochaine. Parce que ils ont beaucoup de choses sur la table pour préparer la saison prochaine.
Mais là, Patrice, il n'a pas envie de parler de la saison prochaine. Il a un gros match à jouer. Et le Stade de France,
juste derrière. Vu qu'il retrouve le Vélodrome, disons, après cette déconvenue avec La Rochelle.
Quand 2017, Romain lui a posé la question, quels sont tes souvenirs ? Il a dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas Bélo au Stade Toulousain. Ça a été ça.
Voilà, Bélo et Toulon qui a mis le drop de la victoire face à La Rochelle en demi-finale en 2017, effectivement. Juste avant de parler de la façon d'aborder Toulouse, la méfiance, on écoute encore une fois Patrice Collazo justement sur ce que représente le Stade Toulousain et la forme ou pas actuelle du Stade Toulousain. On écoute.
C'est les médias qui ont dit ça. J'étais rassuré parce qu'ils ont refait surface un peu aujourd'hui dans les médias. Ça fait 2 semaines qu'ils étaient dans les eaux profondes. Et pour connaître un peu la maison, quand ils ferment les écoutilles et qu'ils descendent dans l'eau profonde, ça veut dire qu'ils se préparent. Donc là, ils seront en formule inclusive. Il y aura tout le monde. Nous aussi, on aura tout le monde. Donc j'espère que ça donnera un beau match. Mais comme je l'ai dit, nous, d'où on vient, quoi qu'il arrive, on sera jamais favoris.
On va pas lui faire sur cet avant-match à Patrice Collazo. Hein, comme il dit, il connaît la maison toulousaine, il y est passé. Il a de l'expérience. C'est vrai qu'il y a aussi la façon d'aborder Toulouse pour toutes les équipes qui affrontent Toulouse. Hein. Pas de complexe d'infériorité, pas trop branché. Alors, j'en reviens justement, Pierre. Tu as rencontré Yannick Tarit cette semaine. C'est vrai que pour quelqu'un qui a presque coûté le match à l'aller avec son coup de tête sur Efren Elias, les rugbymen, on regrette des fois que ce soit trop dans la retenue et tout. On peut pas leur reprocher ça parce que j'étais un peu tensé là-dessus parce qu'il a dit on sait comment les faire déjouer. Ça a été
on sait qu'on est capable de les faire déjouer.
Donc je suis pas sûr que Patrice Collazo était content de voir une déclaration comme ça tourne à l'honneur, mais
je sais pas parce que c'est le titre qui a été choisi, mais dans la réponse il dit le Vélodrome c'est la classe, c'est encore plus la glace, on a énormément de respect pour eux, mais on sait qu'on est capable de les faire déjouer. C'est la préparation qui va engendrer la confiance, et si on les joue avec confiance et en étant lucide, advienne que pourra que le meilleur gagne. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. S'ils arrivent à rester lucides, alors peut-être qu'il y a une chance.
Et lui bien placé pour le savoir. Ça lui a coûté cher en plus, très cher.
Évidemment. Non, mais ça lui a coûté très cher. Ça lui a valu des sérieuses remontrances de Patrice Collazo.
Combien de semaines il avait été rejugé par la FFR.
Il avait pris 5 plus 2, il me semble. Mais dans tous les cas, Patrice Collazo ne voulait pas le refaire jouer. Hein. Après son carton rouge, il a un petit peu profité du fait que Feletti Kaitou, le troisième talonneur, se soit blessé de longue durée et que Yanis Bass, le jeune U20, n'est pas encore prêt pour jouer ces matchs-là. Ça fait qu'il a conservé sa place et qui, pour le coup, monte en puissance.
Il est titulaire en plus.
Il est titulaire et je pense que ça l'a fait beaucoup réfléchir, c'est ce qui me
Ah bah, il se disait, juste pour la petite anecdote, parce que je me rappelle, moi j'ai un témoin qui l'a vu rentrer dans un vol à 7h30 le dimanche matin de Toulouse. Alors on rappelle pour les gens, il avait mis le coup de tête dans le ventre d'Elias, pour ceux qui ne se rappellent pas, carton rouge alors que le Racing était bien dans le match, et après évidemment ça fait basculer le match, et qu'il était tout seul dans un avion à 7h30.
Patrice Collazo avait dit, on peut préparer tout ce qu'on veut, mais pas la bêtise, en conférence de presse.
Là tu sais que tu as passé quelques semaines difficiles. Oui. Mais bon, mais son mérite, c'est d'être revenu là et d'être titulaire demain. C'est un rendez-vous particulier pour lui, Pierre, ce match.
Et il le dit, Yannick Tarit, que ça a été très compliqué avec Patrice Collazo. Il dit qu'il a été très dur. J'ai eu du mal à accepter ce qu'il m'a dit. Mais il dit j'ai compris aussi que je pouvais mettre l'équipe en péril avec ce genre d'action-là. Lui, il réexplique son geste. Hein, vous pouvez lire l'interview sur rmcsport.fr. Un geste pas banal du tout. Et il dit que toute la semaine, en fait, il s'était remonté la tête avec son préparateur mental en disant « faut que je mette de l'intensité, faut que je mette de l'agressivité ». Et il dit « je suis arrivé dans ce match-là avec un niveau de réflexe et de volonté d'être agressif trop élevé ». Et il dit « bon, après, on le croit c'est pas son problème ». Et il dit « je le vois, je veux mettre l'épaule, je sens que je suis en retard de 2 ou 3 secondes et que je peux plus mettre l'épaule ». Et du coup, je fais ce geste idiot en plongeant avec la tête. C'est pas un coup de tête à la Zidane de « tu m'as mal parlé, donc je fais ça ».
Il était conditionné.
C'est ça, c'est un côté trop plein d'agressivité.
Ça te rappelle pas quelque chose, Romain,
ça ? Mauvais réflexe.
Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose quand on joue Toulouse ?
Bon,
le trop plein d'agressivité. Les Rochelais, souvent, les cartons rouges des Rochelais en phase finale ces dernières années. C'est aussi quand on dit aborder Toulouse. C'est aussi.
C'est ça.
Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Sur le trop plein d'agressivité, lucide, sur la lucidité. Et voilà, c'est. Bon. Il veut pas en parler, c'est un cauchemar pour lui, c'est un traumatisme.
il s'est muré dans le silence quand t'as commencé.
Ah, je viens de lui cacher ce soir.
J'étais en train de revoir les images défiler devant mes yeux. Je me dis bon, laquelle je choisis.
Ah bah, on a fait un papier sur les Toulousains quand ils n'étaient pas favoris. Je me suis refait quelques images.
Oui, je me suis dit qu'il n'avait pas dû te faire plaisir celui-là.
Et là, j'ai revu justement à Bordeaux le carton rouge d'Antonio sur Flamand, le Wardy. C'est vrai que Marchand joue bien le coup parce qu'il branche terriblement Wardy sur une mêlée. Il le pousse. Et Wardy craque, il lui met un coup de tête et voilà. Et c'est vrai qu'il y avait eu cette discussion, il y a eu cet angle-là pour les journalistes de dire est-ce que La Rochelle joue pas ses matchs avant d'affronter Toulouse.
Je te parlais de Botia, c'était la finale de Coupe d'Europe de.
En Coupe d'Europe. Ouais.
1, 20, si exact. Bêtise 21.
Ouais, ouais, c'est exact. Ça. Ouais.
Où il prend un rouge qui change le match aussi.
Juste pour finir sur Tarit, il a une réponse que je trouve assez marrante quand je lui parle du fait qu'ils sont une équipe brutale. On dit, tout le monde vous dit, vous êtes brutaux, vous êtes les grands méchants.
Bande de brutes.
Et il me dit, mais non, mais il a rigolé à ce moment-là, mais attends, ça reste un sport de combat. Et il dit, ça me fait rire parce que chaque semaine, ils étudient la fiche arbitre du week-end. Voilà, qu'est-ce que cet arbitre siffle ou ne siffle pas. Et il dit, tous les semaines, le bilan qu'on nous dit, c'est « Bon, c'est un arbitre qui favorise le rapport de force. » Il dit « Oui, bon, d'accord, mais en fait, c'est toujours pareil, il faut être plus costaud que l'adversaire. » Et c'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là au Racing de dire « On a changé de philosophie, on n'est plus ces galactiques beaux derrière avec des stars, mais qui se font plier devant. On est devenu une équipe embêtante à jouer. » Et en tout cas, les avants l'adorent. Les trois quarts disent « On est là aussi, on sait jouer au rugby. » Mais globalement, c'est une équipe qui a complètement basculé dans sa philosophie entre le Racing des années 2015 avec le duo Travers la Bite. Et le Racing qu'on voit aujourd'hui.
Je peux me permettre une parenthèse, revenir sur ce que disait Patrice Collazo avant, quand il dit oui, c'est les médias, machin, on n'est jamais favori. Vous pensez vraiment que cette semaine, il n'a pas dit à son groupe, les gars, il y a la place peut-être cette année pour faire quelque chose? Il faut que tu les conditionnes aussi de manière positive, pas toujours leur dire ah ouais, attendez, c'est Toulouse phase finale.
Non, mais il l'a fait. Après le match contre Pau, il dit il n'y a pas de place pour ceux qui rêvent, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre une stratégie pour aller gagner. Là-dessus, je le trouve plutôt honnête sur le fait qu'il est toujours venu en disant quand il vient au Moscato Show la semaine avant Pau, il dit je vais gagner à Pau. Et il en est, lui, intimement persuadé. Et ça commencera par ça. Si lui et son staff et les leaders du Racing ne sont pas intimement persuadés qu'ils peuvent battre Toulouse à la régulière sans tomber dans ce trop-plein d'agressivité dont on parlait, en effet, ça ne sert à rien de venir.
Allez, on finit, les gars, sur ce match. Stratégie. Écoutez, apparemment, est-ce que c'est un mystère de dire que Toulouse va déplacer le ballon, essayer d'épuiser le Racing et que le Racing va la jouer à l'usure? Est-ce qu'on peut résumer ce match à ça? Est-ce que vous voyez la stratégie comme ça?
Oui, je pense qu'on l'a. Ça résume bien ce qu'on disait avant, hein, de toute façon.
Oui, mais faut pas non plus tomber dans le cliché comme contre Pau, où on disait Pau, l'équipe joueuse, et le Racing, l'équipe qui va leur casser la tête. Pau a un peu déjoué en voulant beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer au pied et a oublié un peu de jouer. Je pense que Toulouse ne tombera pas dans ce piège-là et qu'en effet, Toulouse doit un maximum bouger cette équipe-là, rester debout, ne pas leur laisser mettre la main dans les rucks parce que les Hughes, les Tarit, les Bodon vont y aller. Bon, ils ont les mêmes gratteurs côté Toulouse, voire bien meilleurs. Mais oui, Toulouse va devoir bouger le ballon et le Racing va devoir trouver des moyens de rentrer dans le camp toulousain. Soit par des fautes, soit par du jeu au pied.
Si Toulouse a fait une prépa physique de 3 semaines, je pense que c'est pas pour rien aussi.
Oui, hein.
Et puis quand tu regardes leur banc,
oui, ça va cavaler quand ça va rentrer.
Oh là 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 là, et Marchand, et Flamand, et Gourgue. Puis Graoué est là aussi, Capozzo est là aussi. Enfin bon, bref.
Oui, c'est vrai, il y a des.
Oui, oui, ça rejoint un peu le résumé que tu faisais, ouais, complètement.
On finit sur les duels de ce match. Moi, je vais en prendre un, essayer d'en choisir un. Allez, je vous en vole un, moi. Le Meafou Taofi Fenua.
Ouais. intéressant.
Je pense que Meafou peut descendre du bus en premier aussi.
Chacun leur tour.
Ah voilà. Bah oui, est-ce que vous voyez quelque chose en particulier
Non, mais juste sur Meafou Tao, c'est le profil des 2-5, comme disait Patrice Collazo, que tout le monde rêve d'avoir. Ouais. C'est Meafou est dans la force de l'âge et pas Romain Taufiano, même s'il finit bien la saison. Mais en effet, c'est duel de titans et qui va réussir le plus à mettre son équipe dans l'avancée.
Tiens, moi, j'ai un autre duel, mais je vais plutôt me fixer sur la troisième ligne. Manirara, côté Racing, qui est quand même assez exceptionnel ces dernières semaines et même cette saison. Oh, allez, tiens, face à François Cross. Ou Willis, mais
moi j'aurais mis Willis, ouais.
Willis
dans les rucks là, autour des rucks.
Deux, on peut même dire les deux 6-7. Hein. Oui. Bodon Manirara contre Cross Willis, ça va être un sacré duel.
Un peu généralisé. Ouais.
Et moi je vais vous étiez devant, je vais aller derrière le tuisseau Vacho Cobarès. Qui va réussir à prendre le
tout droit là
du terrain.
Parce que Choco Barrès est un point d'ancrage très très important à Toulouse.
Bien sûr.
Il a toujours fait avancer Toulouse dans un premier temps de jeu, en fait. Donc la mission de Twissova, elle est claire, Pierre.
Arrêter Chocobarès et lui-même le faire reculer.
Le manger.
Pas dans le même style. Hein. Chocobarès va, je trouve, attaquer un peu plus l'intervalle pour progresser. Twissova, ouais, c'est hyper, ouais, frontal. C'est, on essaie d'asseoir le défenseur adverse. Mais voilà. Et petit bonus sur le Carbono Dupont. Parce que je trouve, ouais, que Carbono, ah, que j'ai, avec qui j'avais du mal en début de saison, que je trouvais pas fini, a pris quand même une dimension et fait un match à peau, même si, tu vas le redire, Wilfried, il y a ces deux petits coups de pied direct en touche.
C'est montre un poil de déchet, mais son match est bon, autrement.
À ce très, ouais, haut niveau, mais ce match, son match est très bon. À Clermont, il avait été très bon aussi. Et on a la forme du moment face à ce qui se fait de mieux. Donc,
moi, j'ai deux duels qui font moins saliver, mais qui auront leur importance ce soir. C'est à deux postes clés, troisième ligne centre et à l'arrière aussi, au centre, Roumats, Hughes.
On peut pas dire pas le même profil,
c'est pas les mêmes saisons,
hein. Pas le même profil. Là.
Non, c'est sûr. Mais bon, et Hughes est un peu en perte de vitesse. Et puis à l'arrière, bon, Kinghorn, il est même plus titulaire avec l'Écosse. Il est quand même en difficulté. On l'a vu notamment quand il était aligné en 10. Et Sam James, Pierrot, tu me coupes si je.
C'est compliqué,
dis une bêtise,
mais c'était bien à peau. Donc, mais oui, c'est.
Mais voilà, il y a, enfin, ces deux postes-là, je trouve que demain, bon, on n'a pas forcément les
ou vendredi
duels, mais pourtant, ce sera quand même, ouais, voilà, ce sera quand même très intéressant à surveiller, quoi.
Parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter en faisant leur footing ce vendredi matin. Vous êtes forts, bravo. On vous félicite et on est content d'être avec vous à chaque fois dans ce Entre les poteaux, cette présentation de demi-finale. Voilà pour la première, Stade Toulousain, Racing 92, coup d'envoi 21h05, avant match sur RMC dès 20h avec Pierre au commentaire, avec Denis Charvet et toute l'équipe, avec évidemment Julien Landry, Romain Asselin à Marseille. On va vivre un super week-end demain. Nouveau podcast, nouveau Entre les poteaux sur le magnifique aussi Montpellier Stade Français. Franchement, on se régale hein, sur ce week-end là, et j'espère, ouais, que vous vous régalerez aussi. Vous à Marseille, messieurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des notes, des remarques. On vous répondra et être fidèle à Entre les poteaux. Il y en aura donc un bonus demain et on se retrouvera lundi pour débriefer tout ça. Merci messieurs.
Merci Oul.
Ciao ciao, bon match à tous.
Ciao.
Profitez bien et profitez bien tout le monde. Sur ces demi-finales de top 14. Salut!